Bienvenue d'abord. Je suis Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majoral.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Et bienvenue dans l'un des plus beaux jardins du monde qui fête ses 100 ans, Majorelle à Marrakech, où ce bleu si particulier se mêle au vert des plantes. Décor de peinture orientaliste, refuge d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger qui l'ont restauré et aimé. Le jardin Majorelle attire chaque année près d'un million de visiteurs. Et ce qu'ils voient au-delà du calme, de la beauté des lieux, eh bien c'est le luxe, l'adaptation également du jardin à la sécheresse, au manque d'eau qui touche le Maroc avec de plus en plus de sévérité. Le jardin Majorelle nous a ouvert ses portes pour une visite exceptionnelle et c'est un guide d'exception qui nous accompagne. Madison Cox, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un paysagiste renommé, vous êtes l'époux, l'héritier de Pierre Berger et vous êtes entré un jour dans la vie d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, comme dans ce jardin, vous ne les avez jamais quittés. Fidèle donc à la mémoire de ce couple exceptionnel, ce jardin, c'est une peinture, c'est presque une architecture quand on entre ici. On est très loin des parterres, des massifs européens. Est-ce que c'est très différent du jardin qu'avait dessiné Jacques Majorelle il y a 100 ans ?
C'est une très bonne question. Ben écoutez, oui, il s'agit d'un lieu vivant. Et comme tout lieu ou être vivant, on change avec le temps. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a découvert il y a peu de mois une caisse des plaques de verre, des photos faites dans les années, fin des années 20, ici, devant la porte d'entrée du villa aujourd'hui qui s'appelle Villa Oasis. Et le jardin est très différent. Je crois que Jacques Majorelle, au début, lui-même était plutôt inspiré, je dirais, par les jardins islamiques, européennes, italiennes, avec beaucoup de plantes qui correspondaient plutôt à cette époque des années 20, des allées de cyprès, à des grands bassins d'eau, le grand bassin d'eau qui est derrière nous. Et fur et à mesure, pendant des décennies, Majorelle, elle a pris goût pour les plantes, elle a collectionné des plantes. Donc il a importé les plantes, ou il est allé chercher les plantes dans le royaume du Maroc. Ensuite, il est allé encore plus loin, il a pris goût pour des plantes qui pouvaient exister ici, qui est plutôt un climat désertique. Et donc cette fabuleuse collection de cactés et des succulents. Mais bien entendu, c'est un lieu qui évolue et qui doit aussi correspondre à son époque. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le Maroc, comme le monde entier, a des problèmes de ressources d'eau et on a fallu, nous aussi, répondre à ces changements climatiques.
Il y avait une roseraie, je crois, ici. Cette roseraie, aujourd'hui, elle n'existe plus.
Non, il y avait un roseraie qui était imaginé et entretenu, je dirais, par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et juste après la disparition d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger a dit, mais attendez, ça n'a plus de sens. Ça bouffe énormément d'eau. Et donc, on l'a transformé dans un jardin sec avec ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin d'agrumes. Mais c'est surtout une collection d'agrumes de différentes variétés mises en pot. Mais il y avait plusieurs changements beaucoup plus radicaux que ça. Tout ce que vous voyez derrière nous, autour de nous, ces plates-bandes, ces superficies en gravier, étaient autrefois engazonnées. Et c'était au début du siècle, vers fin des années 90-2000, que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger m'avaient demandé de venir, j'étais en réflexion sur le jardin et de proposer les éléments, je dirais. Et c'était assez flou dans ce sens. Et donc j'ai proposé d'introduire différentes pièces d'eau parce que la ville grandissait d'une façon très radicale et rapide. Et donc, les bruits de l'extérieur infiltraient le jardin. Donc, le simple fait d'avoir plusieurs bassins d'eau avec des jets d'eau, ça commençait à adoucir les éléments de l'extérieur. Et la chose la plus radicale, j'ai proposé, c'était d'enlever le gazon et de le remplacer par ces gravettes. Parce que pour entretenir un gazon dans un endroit désertique, c'est le contresens. Surtout avec une collection des familles des plantes qui ont besoin très peu d'eau, qui faisait que certaines cactées poussaient radicalement ou très vite, mais qui progressaient aussi si vite. Alors, on va aller vers le roseraie, l'ancienne rosée, qui est maintenant le jardin d'agrumes. Alors, ça, c'est un exemple, par exemple, à gauche et à droite. Ces deux parcelles étaient couvertes de gazon. Et donc ici, à l'époque, quand je suis venu dans les années 80-90, c'était que ces superficies étaient inondées d'eau, pour maintenir que le gazon reste toujours vert. Mais c'était vraiment comme des lacs.
Oui.
Et donc, il y avait un gaspillage, si on puisse dire aujourd'hui, on dirait gaspillage. Mais à l'époque, c'était la façon pour entretenir les gazons. C'est parti planter. Et donc, j'ai cet appel. Moi, j'étais à New York et Pierre Berger m'avait appelé en disant « Est-ce que tu peux pas venir? On sera à Marrakech telle date. Est-ce qu'on aimerait bien de reprendre un peu le jardin en main ?» Ça faisait presque 20 ans qu'ils étaient propriétaires. Jamais en faisant des énormes travaux ni rien. Alors, je suis venu. Et j'oublierai jamais le jour où j'avais mes grands plans, j'ai déroulé mes plans devant eux, j'ai proposé des fontaines comme vous voyez bon, derrière là, et ici, et ces deux autres derrière vous. Et j'ai proposé aussi d'enlever tout le gazon et de le remplacer par la gravette. Il y avait un silence total. Donc Pierre Benjamin pour Madison, on se retrouve ce soir pour boire un verre avant dîner, voilà. Voilà. Alors, je rentrais dans ma chambre qui était une maison d'à côté, c'était leur deuxième maison d'Arsada, qui était une maison des invités. Je me suis dit, voilà, ça y est.
C'est fichu.
C'est fichu. Et je retournais à 17-19 heures pour prendre le verre avant dîner. Et il m'a dit, écoute, les deux étaient là, ils disaient, écoute, on est d'accord pour tout, sauf que tu ne touches pas le gazon. Et en fait, je réalisais qu'en fait, Yves Saint Laurent était né en Oran, Algérie. Et donc, le gazon était un symbole de luxe, un symbole de ce que c'était la France, jardin, tout ce que ça peut représenter. Et donc, il était complètement contre cette idée. Et il a dit, mais timidement, mais bon, tu peux l'enlever le côté public, mais ne touche pas le gazon chez moi. Et à sa mort, j'étais à New York à nouveau, et puis je m'avais appelé pour annoncer cette nouvelle. Et il m'a dit... Et d'ailleurs, il faut balancer le gazon à côté privé. Ce qui était assez fascinant, c'était pour convaincre les jardiniers à l'époque, personne ne voulait le toucher le gazon. Ah. Parce que pour eux aussi, c'est un symbole de prestige, de luxe. Ouais. Certains, presque tous, à l'époque, il y a 25 ans, je pense qu'ils vivaient dans des conditions où il n'y avait pas de l'eau courante. Mais pour eux, l'eau était la chose la plus luxueuse. Elle est toujours d'ailleurs dans un sens. Et donc pour eux, d'enlever un symbole de prestige, c'était comme si je diminuais leur tâche ou leur...
La valeur du jardin.
La valeur où ils travaillaient. Ouais. Parce que pour eux, ils arrivaient le matin, ils ouvraient les robinets et ils repartaient faire autre chose pour laisser que les superficies soient totalement inondées. C'est pour ça que les allées, vous vous rendez compte, ils sont surélevés.
Qu'est-ce que vous nous emmenez?
Alors voilà, je vous amène vers le jardin d'agrumes, qui était autrefois le roseraie du Villa Oasis. Donc vous voyez tous ces arbustes en espalier, en cordon. Et le fait qu'ils sont dans les pots aussi, c'est qu'on les arrose bien sûr, parce que toute plante a besoin de certaines quantités d'eau. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins, et c'est beaucoup moins d'entretien, si vous voulez. Parce qu'on est aussi à la recherche de réduire le débit d'eau, mais aussi à... trouver des plantes qui sont adaptables au changement de climat. Et même ça, maintenant, ce jardin date de presque 20 ans, où cet été, on était obligé de monter en ombrière parce que les températures sont tellement augmentées depuis même 10 ans que même les agrumes souffrent. Donc, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on continue ça ou est-ce qu'il faut s'adapter à nouveau? Si ça vous amuse, on peut passer par là et je vais peut-être vous montrer. Alors, je crois qu'on se peut atteindre. On va tourner à gauche et ensuite à droite. Dans l'ancien emplacement, il y avait une très grande piscine qui était construite. D'abord, c'était une espèce de réservoir d'eau et là, on va tourner à droite. C'était un réservoir d'eau qui était fait par Majorelle parce qu'il avait besoin d'eau pour, bien entendu, son jardin. Et ensuite, en 1980, quand Yves Saint Laurent et Pierre Berger ont acheté ces terrains, ils ont transformé le réservoir en piscine. Donc, en fait, la piscine est une énorme piscine, magnifique, revêtue en marbre vert du Maroc, etc. Bon, d'abord, il n'y avait personne qui habite là, donc personne qui utilise la piscine, numéro un, numéro deux. Il y avait des gros fuites d'eau. Donc, c'était la grande décision, qu'est-ce qu'on fait avec... cet édifice. Et donc, je dis, mais on va le démolir et on va crée un programme que tous les deux ans, on va créer un pavillon temporaire. Notre idée, c'est de monter des pavillons temporaires, mais faits par des jeunes architectes marocains. Et là-dedans, on va exposer tout ce qui est autour de les différentes familles de plantes, avec les panneaux descriptifs, etc., ah, un peu, sens un peu pédagogique. Et ça sera aussi utilisé par nos programmes pour les enfants aussi.
Il y a à peu près 1 million de personnes donc, qui viennent par année. C'est considérable, oui. Même dans un pays aussi touristique que le Maroc. Ce jardin, bien sûr, c'est un lieu magnifique. Est-ce que c'est aussi un endroit où les gens viennent faire œuvre de botaniste? Enfin, est-ce qu'il y a là quelque chose comme une école du jardin, un apprentissage?
C'est aussi un lieu pédagogique. C'est un lieu qui est un patrimoine national marocain. Et ça montre aussi la biodiversité de cette partie du pays. Et donc, on annonce les programmes pédagogiques pour les enfants des écoles publiques et nous avons transformé une maison modeste qui faisait partie du parcelle dans les salles de classe pour recevoir les enfants. Et l'idée, c'est de juste les sensibiliser à le monde naturel, aussi de les faire entrer dans deux musées, donc le musée Pierre Berger des Arts Berbères et le musée Saint-Laurent Marrakech, pour juste démystifier, pour ne pas avoir peur, en gros, d'entrer dans les établissements culturels.
Pierre Berger était un homme extrêmement engagé pour la lutte contre le sida, pour...
Plein de choses.
Plein de choses.
Bien sûr.
Comment est-ce qu'on fait vivre cet engagement-là, à l'heure actuelle, au Maroc?
J'en continue à soutenir d'abord la fondation Jardin Majuel, continue à soutenir à presque 100% de cliniques de pistache, etc., à Tanger et Marrakech. Mais plus fort que ça, nous avons dans notre DNA, je parle de nous collectivement ici à la fondation, cette solidarité vers l'identité marocaine et aussi de soutenir divers programmes sociaux, éducatifs, scientifiques. Et donc, bien sûr, il y a le lieu, ce jardin, qui permet, avec ces temps de visiteurs, d'être à l'aide et le support. Mais c'est aussi plus que 200 personnes qui travaillent ici. Et aussi, on ouvre l'opportunité à ces jeunes Marocains et Marocaines de découvrir la richesse de leur pays et les possibilités d'aller plus loin. Et ça, c'est aussi une autre façon de qui nous sommes. Et de ne pas imposer quelque chose, mais au moins d'ouvrir des portes vers les opportunités. Nous sommes à Londres. Ça, c'est notre chef jardinier Ismaël, mais qui a glissé l'autre jour, mais pas chez nous.
Ismaël Bourzek, responsable jardin espace paysager au niveau de Jardin Majorel. J'arrive avant l'ouverture, c'est à 7h du matin, donc juste pour voir les plantes du proche, vérifier l'état de chacune, voir les bassins, les fontaines, pour juste planifier les travaux pour les jardiniers et surtout vérifier l'ensemble de la collection végétale.
Et vous avez combien d'équipes alors, avec combien de personnes?
Au niveau de l'équipe jardinier, nous sommes 18, donc 18 jardiniers qui font l'entretien du jardin, qui font la peinture écologique pour l'ensemble des jardinières, des pots, etc., comme vous voyez. L'entretien des bassins aquatiques, c'est un travail spécial pour les jardiniers, mais c'est toujours garder l'esprit sauvage du jardin, et voilà.
Et alors, on va terminer, je vais juste vous montrer. Et voilà, là, ça, c'est peut-être un des axes les plus fameux avec cette allée transversale qui amène vers la porte qui est autrefois la porte d'entrée de son atelier.
Ici, c'est spectaculaire. Quand on arrive ici, au milieu de tous ces cactus...
Oui. Ça, c'est magnifique.
C'est magnifique, l'atelier bleu majorel.
Alors, vous savez, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça, c'est un bâtiment qui était dessiné par Paul Sinoir, qui était un architecte des années 20-30, totalement dans une façon cubiste, totalement art déco. Donc, vous voyez, dépouillé de très peu d'ornements. En fait, Jacques Majorel, il a rajouté plus tard, dans les années 40, l'arcade en bois. Mais si vous voyez bien, il y a très peu de décorations externes. Le contraire de la villa Oasis, qui est très chargée comme un lieu orientaliste, fantaisie orientaliste, et là, c'est vraiment, ça correspond beaucoup plus à une chose de l'époque des fin des années 20, Bauhausienne, si vous voulez.
Oui.
Mais à l'époque, c'est très intéressant. À l'époque, quand ce bâtiment a été construit, ou même quand il a construit sa maison, il y avait une législation que le général Léauté avait passé que tous les bâtiments de Marrakech, tous les bâtiments dans les villes intérieures devraient être peints roses. Et tous les bâtiments sur les côtes devraient être peints blancs.
Bien.
Et donc, quand Majorelle a construit ces bâtiments en 1929, il a peint blanc au début, qui était contre la loi. Un peu comme un acte un peu militant.
Rebelle,
c'est ça le mot. Et après, on n'a pas exactement la date exacte. On pense que c'est dans les années 40 qu'il a peint bleu. Mais c'est très intéressant parce qu'il était toujours assez rebelle et assez, et en même temps passionné de cette culture et interprété à lui-même. Donc, ce bassin et tout ce long canal et ses façades, ça, c'est lui totalement. Et à un moment donné, il a quitté de vivre le Villa Oasis et il s'est installé dans l'appartement, le studio qui est au-dessus, derrière ces rideaux jaunes.
La villa, immuable, au cœur de ce jardin profondément renouvelé, 100 ans après, le décor orientaliste de Majorelle a dû s'adapter au changement climatique. Il y a gagné en vitalité et en modernité. Pour les festivités du centenaire, la Fondation Majorelle accueille en concert privé Walid Ben Selim.
C'est vraiment grand plaisir que vous êtes tous là et que le récital commence.
Walid Ben Selim en duo avec Marie-Marguerite Cano. Walid Ben Selim dans Carrefour du Maghreb, Carrefour du Maghreb à Majorelle, à la réalisation Françoise Gourlot.